Octave Mirbeau, cocher de maître. Il s'appelle William et n'a pas d'autre nom. Du moins, il ne se connaît pas d'autre, ne s'étant jamais connu de famille. Il est né à Londres, dans les froids d'un bouge, ou dans la boue d'une rue, ou dans l'ombre nocturne d'un square. Il est né de l'anonyme et cryptogamique rencontre du hasard et de la débauche entre deux hoquets de whisky. Gamin, il a vagabondé, mendié, volé, été en prison. À 8 ans, il a servi au plaisir des matelots et d'un lord ataxique, fouetteur d'enfants, qui manqua le tuer. Plus tard, comme il avait les deux jambes tordues en arc, presque difforme, un air déhonté, cynisme et de sexe ambigu, les plus crapuleux instincts, on l'a racolé un beau jour pour en faire un groom. Et d'antichambre en antichambre, d'écurie en écurie, frotté à toutes les roublardises, à toutes les effronteries, à toutes les vices des domesticités de la maison, il est passé là au haras d'Eton. Et il s'est pavané avec la plaque écossaise, le gilet à rayures jaune et noir et le pantalon noir, clair, collé, qui fait aux genoux des plis en forme de devis. À peine adulte, il ressemble déjà à un vieux petit homme. Grêlé de membres, la face plissée, rougie aux pommettes, jaunie aux tempes, la bouche usée et grimaçante, les cheveux rares ramenés au-dessus de l'oreille en volute graisseuse. Dans une société qui se pâme aux odeurs du crottin, William est déjà quelqu'un, mieux qu'un paysan et qu'un ouvrier, presque un gentleman. À Eton, il apprit à fond son métier. Il sut, par le menu, comment il faut panser un cheval de luxe, comment il faut le soigner quand il est malade, quelles toilettes compliquées, minutieuses et différentes suivant la couleur de la robe lui conviennent. Il sut le secret des lavages intimes, les polissages raffinés, les pédicurages savants, les maquillages ingénieux, par quoi embellissent les bêtes de course, comme les bêtes d'amour. Au bar, en buvant des champagnes cocktails, en aspirant des jeans avec un chalumeau, il connut des jockeys, des entraîneurs, des bookmakers, toute la fleur de l'écurie, toute la crème du fumier, auxquels parfois se mêlaient des baronnets et des ventrus et voyous. Et à travers les discussions bruyantes, les matchs prodigieux, les gestes de boxe, les tintements des guinées, se développa devant lui un horizon de fortune et de plaisir, un rêve de gloire. William eût souhaité devenir jockey, car il ne concevait pas d'ambition plus haute. Mais il avait grandi, et si ses jambes étaient restées maigres, son estomac s'était développé. Il avait trop de poids. Ne pouvant endosser la casaque du jockey, il se résigna donc à revêtir la livrée du cocher. C'est un bel état, moins retentissant peut-être, mais où l'on peut faire son chemin avec de la hardiesse, de l'immoralité et du savoir-faire. Aujourd'hui, William a 40 ans. Il est des 8 ou 10 cochers anglais, italiens, français, dont on parle dans le monde élégant, avec émerveillement. Il est célèbre. Son nom est cité dans les journaux de sport, même dans les échos des gazettes mondaines, entouré des qualificatifs les plus triomphants. Si triomphant qu'un étranger, peu au courant de nos mœurs et de nos choses qui sollicitent d'ordinaire notre pitié nationale, pourrait croire qu'il s'agit d'un artiste de génie ou d'un grand poète. Son maître, le baron de X, un des plus millionnaires banquiers de Paris, est fier de lui, plus fier qu'une opération financière qui aurait coûté la ruine de 100 000 familles. Le baron de X dit « mon cocher » en se regorgeant sur un ton de supériorité définitive, comme un collectionneur de tableaux dirait « mon Velasquez ». Et de fait, le baron de X a raison d'être fier, car il a encore gagné en respect, en honorabilité, en illustration, depuis qu'il possède William. Au club, au foyer de la danse, il est question de la fameuse victoire du baron sur l'Angleterre. Les Anglais nous ont pris l'Égypte, mais il a pris William aux Anglais. Le baron aurait conquis les Indes, qui n'eût pas été davantage acclamé. Cependant, cette admiration ne va pas sans une forte jalousie. On voudrait lui ravir William. Et ce sont autour de ce dernier des intrigues, des machinations corruptrices, des flirts comme autour d'une belle femme. Quant aux journaux, en leur enthousiasme, ils en sont arrivés à ne plus savoir lequel de William ou du baron est l'admirable cocher ou l'admirable financier. Ils les confondent tous les deux dans les mutuelles gloires d'une même apothéose. Aussi est-ce avec les plus graves respects qu'ils ont reproduit et commenté le traité d'alliance conclu entre William et le baron, c'est-à-dire entre l'Angleterre et la France. Au terme de ce traité, qui fait également honneur aux deux parties contractantes, il a été convenu. William aurait la direction absolue de l'écurie du baron et le choix du personnel, qui ne conduirait jamais son maître, qu'il ferait seul les approvisionnements d'avoine, de foin, de paille, de verdure fraîche, de carottes, de son et de grains de lin, qui se réservait le droit de vendre, d'acheter et d'échanger les chevaux avec l'assentiment préalable du baron au fur et à mesure de son besoin, de ses fantaisies, qui n'habiterait pas l'hôtel, qui ne prendrait point ses repas à l'hôtel, que ses appointements seraient fixés à 15 000 francs par an, préjudice d'une indemnité de 12 francs par jour pour sa nourriture, qu'il aurait droit annuellement à 2 mois de congé, lesquels lui seraient intégralement payés, qu'au cas où le baron, pour une raison quelconque, voudrait se priver de ses services, celui-ci ne pouvait le faire qu'en le prévenant 6 mois d'avance et en lui payant une année d'indemnité à partir du jour du départ. Pour peu que vous ayez été curieux de traverser les foules aristocratiques, soit aux courses, soit au concours hippique, soit à l'allée des acacias, soit aux ventes de charité, vous avez certainement rencontré William, qui en est une des ordinaires parures. C'est un homme de taille moyenne, très laid, d'une laideur comique d'anglais, et dont le nez est démesurément long, à des courbes qui oscillent entre la courbe bourbonienne et la courbe sémitique. Les lèvres trop courtes laissent voir entre les dents glacées des trous noirs. Le teint s'est éclairci dans la gamme des jaunes, relevé aux pommettes de quelques hachures de lac vive. Sans être obèse, il est maintenant doué d'un embonpoint confortable et régulier qui rembourre de graisse les exosos canailles de son ossature. Et il marche, le buste légèrement penché en avant, les chines sautillantes, les coudes écartés, qui font des mouvements de bielle. Dédaigneux de suivre la mode, jaloux plutôt de l'imposer, il est vêtu richement et fantaisistement. Il a des redingotes bleues, à revers de moire antique, ultra collante, trop neuve, des pantalons de coupe anglaise trop clairs, des cravates trop blanches, des bijoux trop gros, des mouchoirs trop parfumés, des bottes trop vernies, des chapeaux trop luisants. Oh, les chapeaux de William, les chapeaux couleur d'eau profonde, où les ciels, les arbres, les rues, les fleuves, les foules, où toute la nature et toute l'humanité se reflètent et grouillent. Combien longtemps les jeunes gommeux envièrent-ils à William l'insolite, l'inaccessible éclat de ses couvre-chefs? Aucun fer, aucune brillantine, aucun frottement de la soie ou du velours ne parvenait à étendre sur les leurs, cette puissante lumière, cette incandescence mystérieuse qui le coiffait, lui, d'un bloc de soleil aux 1 000 rayons divergents. Pourtant, son secret était simple. Il le confia au jeune marquis de M, un jour qu'ils s'étaient rencontrés aux courses d'Auteuil près d'un bookmaker. Voyons, William, supplia le marquis, mais comment obtenez-vous vos chapeaux? Mes chapeaux, répondit William d'un air flatté. Oh, c'est bien facile. Tous les matins, je fais courir mon valet de chambre pendant un quart d'heure. Il sue, n'est-ce pas? Et la sueur, ça contient de l'huile. Alors, avec un foulard de soie très fine, il recueille la sueur de son front et il lustre mes chapeaux avec. Seulement, il faut avoir un homme propre et sain, blond tant que possible, car toutes les sueurs ne conviennent pas. J'ai donné la recette au prince de Galles. Et comme le jeune marquis le remerciait et lui serrait la main à la dérobée, William ajouta confidentiellement: Prenez baladeur à 7 contre 1. C'est le gagnant, mon vieux. À 8 heures le matin, William, en petit chapeau rond, en par-dessus mastic, une énorme rose jaune à la boutonnière, descend de son buggy devant l'hôtel du baron. Le pansage vient de finir. Après avoir jeté sur la cour un regard de mauvaise humeur, il entre dans l'écurie et commence son inspection, suivi des palefreniers inquiets et respectueux. Rien n'échappe à son œil soupçonneux et oblique. Un seau pas à sa place, une tache au chêne d'acier, une éraillure sur les argents et sur les cuivres. Et il grogne, s'emporte, menace, la voix pituitaire, les broches graillonnantes du champagne mal cuvé de la veille. Il pénètre dans chaque box et passe sa main, gantée de gants blancs, dans la crinière des chevaux, sur l'encolure, sur les reins, la croupe, les jambes, le ventre. À la moindre trace de salissure sur les gants, il bourre les palefreniers. C'est un flot de mots orduriers, de jurons outrageants, une tempête de gestes furibonds. Ensuite, il examine minutieusement le sabot des chevaux, flaire l'avoine dans le marbre des mangeoires, étudie longuement la forme, la couleur et la densité du crottin, qu'il ne trouve pas toujours à son goût. Est-ce du crottin, ça, nom de Dieu? Du crottin de cheval de fiacre, oui. Et que j'en revoie demain de semblable, et je vous le ferai avaler, bande de saligauds. Parfois, le baron, heureux d'une occasion de causer avec son cocher, apparaît. À peine si William s'aperçoit de la présence de son maître. Aux interrogations, il répond par des mots brefs, presque hargneux. Jamais il ne dit Monsieur le baron. C'est le baron, au contraire, qui serait tenté de dire Monsieur le cocher. Dans la crainte d'irriter William, il ne reste pas longtemps et se retire discrètement. La revue des écuries et des selleries terminée, ses ordres donnés sur un ton de commandement militaire, William remonte en ce buggy et file rapidement vers les Champs-Élysées, où il fait d'abord une courte station en un petit bar parmi des gens de course, des tipsters au museau de fouine, qui lui coulent dans l'oreille des mots mystérieux et lui montrent des dépêches. Le reste de la matinée est consacré en visite chez les fournisseurs, où il est rare qu'il n'ait pas de grasse commission à toucher, et chez les marchands de chevaux, où s'engagent des dialogues dans le genre de celui-ci. « Eh bien, Mr. William. Eh bien, Monsieur Polny. J'ai un acheteur pour l'attelage baie du baron. Ah, il n'est pas à vendre. Mais qu'est-ce que ça fait? Il y aurait 50 louis pour vous. Non, 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 non. 100 louis. Mais on verra. Ce n'est pas tout, Mr. William. Quoi encore, Mr. Poulney? J'ai deux magnifiques algents pour le baron. Nous n'avons pas besoin. Mais qu'est-ce que ça fait? Il y aurait 50 louis pour vous. Non. Alors 100 louis? Oh, on verra. 8 jours après, William, ayant détraqué comme il convient, ni trop ni trop peu l'attelage baie, ayant démontré au baron qu'il est urgent de le vendre, vend l'attelage baie à Poulney, lequel vend à William ses deux magnifiques alezans. Pouny en sera quitte pour mettre l'attelage baie à l'herbage pendant 6 mois. À midi, le service de William est fini. Il rentre pour déjeuner dans son appartement de la rue de la Bienfaisance, un appartement écrasé de peluches au ton fracassant, orné sur les murs de lithographies anglaises représentant des chasses, des steeples, des portraits du prince de Galles, des cannes, des whips, des fouets de chasse, d'étriers, de trompes, de mêles, arrangés en panoplie au centre de laquelle, entre deux frontons dorés, se dresse le buste de la reine Victoria en terre cuite polychrome. Libre de soucis, étranglé dans ses redingotes bleues, le chef couvert de son fard irradiant, William vaque alors toute la journée à ses affaires et à ses plaisirs. Ses affaires sont nombreuses, car il commandite un caissier de cercle, un bookmaker, un photographe hippique, et il possède 3 chevaux à l'entraînement, près de Chantilly. Ses plaisirs ne sont point. Et les petites dames les plus célèbres connaissent le chemin de l'appartement de la rue de la Bienfaisance, où elles savent que, dans les moments de gêne, il y aura toujours pour elles un thé servi et 10 louis près. Le soir, William, après s'être montré au cirque, à l'hippodrome ou dans un café-concert, très correct sous son frac à revers de soie, se rend chez l'ancien, où il se saoule longtemps en compagnie de cochers qui se donnent des airs de gentleman et de gentleman qui se donnent des airs de cochers. All right.